Vous écoutez RTL.
RTL. Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Comment ça va?
Ça va bien. C'est bien, les curieux, on les voit en vrai, là, c'est agréable.
Et alors, pour ceux qui nous écoutent, on est dans le hall 2 hein, du mondial de l'auto. Au programme ce soir, Sidonie.
Comment est né le studio Harcourt et son style inimitable? Vous savez, ce portrait en noir et blanc éclairé au projecteur de cinéma, on vous raconte son histoire à l'occasion de ses 80 ans.
Et qui sont les Mamelouks, ces esclaves égyptiens devenus des guerriers légendaires? Comment sont-ils devenus aussi puissants? On va découvrir leur histoire tout à l'heure.
Et pour commencer, nous sommes au cœur du salon de l'automobile et on le voit, évidemment, la voiture passionne. Elle a changé notre quotidien, notamment depuis la Citroën A 8 chevaux torpedo, lancée par André Citroën, c'était en 1919. Et ce génial industriel est allé encore plus loin parce qu'il s'est servi de la voiture pour explorer le monde, à commencer par l'Afrique. Cette expédition mythique, c'est la croisière noire. On vous la raconte avec Ariane Audouin-Dubreuil. Bonsoir.
Bonsoir, Sidonie.
Bonsoir.
Vous êtes la fille du commandant Louis Audouin-Dubreuil. Votre père était l'un des chefs de cette incroyable expédition lancée par André Citroën à travers le continent africain. Aujourd'hui, vous nous racontez la véritable croisière noire avec ses moments de grâce et ses ratages aussi. Votre histoire, elle est différente de la version officielle d'André Citroën?
Ah, bien sûr. Et si j'ai souhaité écrire ce livre, c'est pour vraiment authentifier, rendre plus authentique, plus vivante aussi, plus quotidienne. Et puis, ne pas oublier les buts de cette mission qui était à la fois économique, humanitaire, scientifique et culturelle.
Qu'est-ce qui vous permet d'écrire cet ouvrage aujourd'hui? Quel document?
Eh bien, écoutez, le patrimoine familial photographique des missions Citroën.
Et les carnets de notes aussi de votre papa?
Les carnets de notes, les carnets intimes, certains livres, les mémoires que mon père avait commencé à écrire. Donc, j'avais une partie de ces mémoires et notamment des passages pour cette mission croisière noire. Donc, tout cela réuni m'a permis d'essayer de faire un récit très vivant et un petit peu en les mettant en scène. Tous ces grands hommes qu'on avait mis sur un piédestal, ils ont toujours leur piédestal, mais ils sont plus dans la réalité.
Alors, la croisière noire débute en 1924. C'est quoi? C'est d'abord un défi fou?
Alors, le premier défi, ça avait été la première traversée du Sahara en automobile, fin 22, début 23. C'était le Tougourt-Tombouctou. Donc, c'était vraiment une traversée rapide, un défi. Pour la première fois, les automobiles passaient le Grand Air, ces dunes immenses de 100 mètres de haut pour enfin atteindre Tombouctou.
Déjà lancé par André Citroën, ce premier défi?
Alors, bien sûr, c'est André Citroën et il avait embauché mon père pour ça à la sortie de la guerre de 14, on peut dire. Pour essayer ces voitures tout-terrain, effectivement, équipées des chenilles qui graissent instinct.
Et ensuite, donc, la croisière noire. Pourquoi André Citroën lance-t-il cette expédition?
Eh bien, pour éprouver ces voitures, et puis un grand coup de publicité. Et puis, il avait l'intention de lancer le tourisme au Sahara. Et il était en train, juste avant cette mission, qui a demandé 2 années de préparation, eh bien, il lançait le tourisme en construisant des bords d'hôtels absolument somptueux au cœur du Sahara.
Donc, c'était un projet de businessman aussi?
Ah, mais c'était un projet de businessman, bien sûr.
Et aussi de curieux. C'est un mot qu'on aime bien ici, sur RTL, dans cette émission, parce qu'il voulait découvrir ce continent. Oui. Il faut imaginer, on est au tout début du XXe siècle. Pour les Français, c'est vraiment un horizon inaccessible, l'Afrique.
Ah, il était follement curieux, Citroën. C'était une de ses grandes qualités. Il allait piocher des idées, puis il trouvait d'autres idées. C'était un homme absolument exceptionnel. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a lancé la publicité moderne.
Et donc, il veut découvrir l'Afrique.
Il veut découvrir l'Afrique, mais surtout, il veut éprouver ses voitures. Et puis, cette chenille, qui est un brevet très important qu'il était en train de mettre au point.
Quel itinéraire était prévu pour cette croisière noire?
Eh bien, écoutez, c'était à travers le Sahara, d'Alger, donc jusqu'au Niger. Et puis, on traversait tous les pays sous mandat français. Et puis après, on arrivait au Congo. On faisait le Congo-Nil pour les grandes chasses africaines. Là, vraiment, ils s'en sont donnés. On a bifurqué pour traverser la forêt vierge sur une piste qui avait été aménagée par le roi Albert Ier, uniquement pour pouvoir joindre le Congo du Nord avec le Congo du Sud. C'est-à-dire qu'on partait en fait du Centrafrique pour traverser toute la forêt vierge, surtout même presque 500 kilomètres. Il avait fait déblayer cette piste et pour la première fois, on pouvait atteint le Congo à Stanéville, qui est maintenant Kinshasa.
Ariane Audouin-Dubreuil, qui sont les participants de cette croisière noire?
Qui sont les dingues qui vont sauter dans la croisière?
Alors écoutez, les dingues étaient au nombre de 24. Il y avait 10 mécaniciens, il faut parler tout de suite d'eux, parce que c'était les hommes les plus précieux qui soient, qui étaient capables, dans la forêt vierge, dans un petit coin, sous une cahute, de fondre une nouvelle pièce de remplacement. Et puis, il y avait deux chefs, il y avait des gens chargés aussi bien d'études, des possibilités aériennes. C'était mon père. Il y avait un commandant Bettembourg qui était chargé de faire des relevés topographiques. Il n'y avait pas de carte routière, hein, je vous le signale tout de même. On avait quelques cartes des pistes qui avaient été relevées grâce aux militaires français qui partaient à cheval ou à d'autres chameaux pour repérer les pistes. Voilà. Et puis après, eh bien, ils sont partis.
Il y avait aussi un médecin, il y avait un géologue, un peintre, un réalisateur.
Bien sûr.
C'est l'équipe Eiffel.
Un grand réalisateur, Monsieur Poirier. Un grand peintre et Monsieur Yakovlev qui avait un regard d'ethnologue. Il a été très important pour cette étude poursuivie, les travaux poursuivis par cette mission.
La première expédition automobile à travers l'Afrique, une aventure sportive, mécanique, scientifique, culturelle et puis marketing aussi. Dans un instant, on repart sur les pistes de la croisière noire sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
En 1924, l'expédition Citroën Centrafrique traversa le continent noir tout entier d'Oran à Madagascar et ce fut la croisière noire.
RTL, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On vous raconte André Citroën qui a su, vous l'avez entendu, très vite utiliser la publicité et qui était aussi un aventurier avec la plus passionnante de ses épopées, la croisière noire. C'était une expédition lancée en 1924. Objectif, traverser pour la première fois l'Afrique en voiture, de l'Algérie à Madagascar. Ariane Audouin-Dubreuil, on revit cette course avec vous et on continue de partager votre récit passionnant. Vous êtes la fille du commandant Louis Audouin-Dubreuil, l'un des chefs de cette expédition. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, avec quelle voiture cette épopée va se dérouler. Des autochenilles, c'est ça?
Des autochenilles équipées des chenilles qu'égraisse instinct.
Qu'est-ce que ça veut dire, des chenilles qu'égraisse instinct? Vous dites ça depuis...
Ce sont les deux ingénieurs qui ont mis au point ce brevet que André Citroën avait acquis en Pologne alors qu'il était très très jeune. Il a lancé déjà une usine d'engrenage à double chevron.
C'était aussi un défi technologique.
C'était évidemment un défi technologique, absolument.
Le départ est donné en Algérie, à Colombéchard, 28 octobre 24. Comment réagissent les participants? Il y a de l'émotion, forcément, de la peur aussi, peut-être?
Ah non. Enfin, bon, mon père était assez inquiet. Il était le chef en second de la mission. Il était assez inquiet sur les réactions des artistes, le cinéaste, le peintre, etc., qui n'avaient pas, comme eux, traversé déjà le Sahara. Ce qui avait été une très très grosse épreuve. Alors effectivement, ensuite, le plaisir de traverser le Sahara n'était pas partagé par tous.
D'accord, certains avaient quelques appréhensions.
Épuisés aussi.
Très vite épuisés, c'est
très
vrai.
Très vite épuisés.
Il y avait un défi, une volonté d'aller vite pendant cette croisière noire.
Absolument pas. C'est vrai, ils s'étaient fixé tout de même un itinéraire avec des horaires, avec des jours d'arrivée qu'ils n'ont absolument pas pu suivre parce qu'ils ne savaient pas s'ils rouleraient à 5 à l'heure ou à 25 à l'heure. C'était un record le 25 à l'heure, absolument grisant. On était plutôt à désensabler, enfin des passages difficiles, enlever certains obstacles, voilà.
Alors les grandes étapes de l'expédition, vous l'avez raconté rapidement tout à l'heure, mais comment évidemment, les participants, je ne sais pas, se ravitaillent. Ils sont partis avec, énormément d'eau, de nourriture.
Question passionnante à traiter. La mission a été lancée 2 ans avant, à travers justement les approvisionnements. Alors, l'Afrique n'était pas pénétrée. C'est ça le côté passionnant de l'expédition Citroën. Donc, on embarquait à Marseille ou dans un autre port. Et on allait déposer dans les ports tout autour de l'Afrique des matériaux, l'essence, absolument tout ce qui était nécessaire et même des vivres parce que Citroën soignait son équipe et on prenait des vitamines par exemple. Bon, alors on débarquait et là, avec les moyens du bord, est-ce que c'était sur le fleuve Sénégal, on embarquait en pirogue, on embarquait l'essence et tout le bazar, on arrivait jusqu'à Tombouctou, et puis on pouvait poursuivre, il y en avait un qui descendait d'Alger avec des caravanes de chameaux, portant 60 litres d'essence, et c'était une noria continue. Il y en a un qui est parti sur le fleuve Congo, qui a remonté l'Ouélé, pour créer des endroits près des dépôts. Il y a eu 35 dépôts sur tout le parcours.
Mais ça veut dire qu'ils ont été bloqués parfois, parce qu'ils n'étaient pas ravitaillés, parce qu'ils attendaient l'essence et qu'ils ne pouvaient plus avancer ?
Ils n'ont jamais été bloqués parce que le grand Citroën savait organiser les choses. Alors la logistique était parfaitement organisée.
Et puis,
fallait pas perdre le point de repère. Là où on avait semé les dépôts, c'était peut-être ce qu'il y avait le plus inquiétant.
Vous parlez d'organisation, Ariane Audouin-Dubreuil. Il y avait aussi un code secret pour communiquer entre les membres de cette équipe Citroën. Ça fonctionnait comment ?
Alors, on devait communiquer les résultats dans les étapes à monsieur André Citroën.
Les résultats, c'est-à-dire, c'est ce qu'on observait.
Ce qui se passait au quotidien, et s'il y avait des problèmes, et s'il y avait des nécessités, il fallait être approvisionné ou autre. Donc, il ne fallait pas le livrer à l'ennemi. Et qui était l'ennemi ? C'était les équipes de Renault, notamment. De Louis Renault, avec les sirops Renault et de Linguette. Et tout le monde était avec la hantise d'arriver les premiers à traverser l'Afrique.
Parce qu'ils concouraient ensemble ?
Non, ils concouraient pas ensemble.
C'était une course parallèle.
Ils talonnaient la mission Citroën.
Veut dire que Renault avait lancé lui aussi une mission similaire,
c'est ça ? Il y avait surtout de Linguette. Mais il ne fallait pas révéler à Renault les faiblesses du système. Donc, ils ont fait tout simplement, ils ont créé un code. Alors, régulièrement, ils achetaient des étoffes dans telle boutique. Alors, c'était tututut, voilà, on entend tututut. Et alors, en code.
Merci, André.
Et puis, ça voulait dire, nous avons eu du mal à traverser telle barre et les voitures étaient sur des pirogues et on a failli sombrer. Enfin, vous voyez le genre de. Voilà.
D'ailleurs, ces codes secrets, on les retrouve en fac-similé, ce sont des copies de documents originaux dans votre livre publié aux éditions Glénac, La Croisière Noire. Nous sommes sur les pistes de sable dans une auto-chenille. Ce soir, on parcourt l'Afrique. Nous sommes en 1924 avec André Citroën.
On a des grosses lunettes pour protéger nos yeux.
Moi, j'ai un petit foulard sur les cheveux quand pour pas trop me décoiffer. On en prend plein les yeux et les oreilles sur RTL.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et nous sommes en direct du Mondial de l'Automobile avec un beau public que l'on salue. Merci.
Salut à tous. C'est sympa de venir nous voir.
Oui, c'est sympa. Vous êtes venus en voiture. Moi, je suis venue en transport en commun, décidément. Mais peut-être que je repartirai avec une voiture.
Avec votre vieille BMW de jeunesse, c'est ça ?
Pourrie de mes parents. La Croisière Noire, c'est un défi fou lancé par le plus grand constructeur automobile français, André Citroën. La Croisière Noire, c'est une course, une expédition, une aventure humaine absolument unique qu'on a le bonheur de revivre avec vous, Ariane Audouin-Dubreuil. On vit cette course notamment à travers l'expérience et les souvenirs de votre père, l'un des chefs de cette expédition. On l'a dit, cette croisière noire, j'allais dire course, mais c'est ça, c'est aussi une compétition féroce entre André Citroën et Louis Renault. Qui gagne ce duel au final ?
Bon, écoutez, personne ne gagne parce que finalement, si Citroën, puisque c'est lui qui, pour la première fois, arrivera vraiment à Madagascar. Mais non, les autres ont bifurqué plutôt vers le Cap par d'autres voies.
Il y a une étape très difficile dans cette croisière noire, c'est la traversée du Sahara, vous l'avez évoqué. C'est vraiment le passage le plus dangereux de l'Afrique, notamment depuis le soulèvement des Touaregs en 1916. Comment se passe cette traversée pendant la croisière noire ?
Bien écoutez, effectivement, ils ont pu éviter quelques bandes de ces nous-ci un peu dangereux. Ça, c'est certain. Mais le reste, vous savez, ça s'est bien passé. Une chaleur abominable, un petit peu de vent de sable.
Alors, comment on se repère? Les dunes, il n'y a pas de carte?
Eh bien, écoutez, ils se sont repérés sur des cartes. Vous avez d'ailleurs le schéma.
On a un facsimilé, avec
le
nous.
Facsimilé d'un grand schéma qui avait été établi par un officier français des compagnies montées et qui avait fait des relevés tout simplement de chaque petit obstacle. C'est la moindre pierre.
C'est le document qu'on a là, c'est relevés faits juste à la main.
Ce sont
deux coups de crayon quand même.
Vous en avez un encore plus détaillé qui vous donne effectivement le fond des ouèdes, les petites ramifications, les petits obstacles. Ils n'ont pas eu vraiment d'obstacles de la nature, sinon la fatigue, la chaleur.
Et les voitures, ces auto-chenilles dont vous parliez, elles ont tenu le coup?
Ah, mais bien sûr.
J'imagine qu'il y a des pannes quand même.
Enfin, c'était infaillible. Donc. Alors, écoutez, il est certain qu'on usait beaucoup de palets sur les chenilles, mais il y avait les chenilles de remplacement. Alors, on changeait, il y avait des pièces de rechange.
Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous mettiez à l'honneur les techniciens et les mécaniciens qui ont accompagné la croisière.
Ça a permis d'améliorer la technique, c'est d'améliorer ces auto-chenilles ou même d'améliorer d'autres voitures qui sont arrivées plus tard sur le marché et dans l'imaginaire d'André Citroën.
La chenille a beaucoup servi pour les exploitations agricoles. Il y a eu beaucoup d'applications de la chenille, voilà. Et puis, bon, c'est vrai que même pour la croisière jaune qui a suivi ensuite, ils ont inventé encore un prototype.
Donc c'était un défi humain, c'était un défi technologique, donc ça permettait de vanter la qualité, la résistance du matériel dans des conditions extrêmes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme ratage quand même? Parce que vous nous disiez qu'il y avait la version d'André Citroën et celle que vous racontez là dans votre livre. Qu'est-ce qu'il y a eu comme ratage pendant cette croisière noire qui ont été passés sous silence par André Citroën à l'époque?
Alors, moi, je ne parle pas de ratage. Ce qui a été surtout camouflé, c'est les difficultés. C'est la maladie. Le peintre Yakovlev a attrapé la typho-malaria. Il a failli vraiment... On ne pouvait même pas l'évacuer rapidement. Alors là, il y a eu un moment qui était très angoissant. Mais de vraies difficultés, la forêt vierge. La forêt vierge a été un passage très difficile. Le roi Albert Ier avait fait défricher dans les profondeurs de la forêt et les voitures ont de temps en temps basculé sur des souches. Enfin, il y a eu là pas mal d'incidents. Mais dans l'ensemble, vous savez, et puis même dans la forêt vierge, vous savez ce qui leur est arrivé un jour?
Mais vous allez nous le raconter vite.
Ils ont vu des papillons fantastiques.
Quelle chance.
Alors, ils ont sorti des haveneaux et les voilà chassant le papillon. Les explorateurs se
sont... Pardon, mais qu'est-ce que c'est des haveneaux?
Des haveneaux, c'est des filets.
Des filets.
Alors, des petits filets. Et ils se sont mis à attraper de merveilleux papillons. Alors, vous voyez, mais tout
ça... C'était pas grand-chose, cette croisière noire, alors. On aurait pu la faire.
C'était épuisant, voilà.
Avec des moments de grâce.
Mais écoutez, c'est comme ils n'ont jamais rencontré dans aucune région aucune hostilité. Ils ont été accueillis par des chants, par des danses, par des manifestations de joie de les voir traverser ce pays. Alors, aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer ça. Et ils parlaient toujours de la riante Afrique, de l'Afrique des chansons, de l'Afrique des rythmes. Tu vois, on entend des rythmes d'ailleurs. Voilà.
On continue de vous faire revivre cette croisière noire d'André Citroën. On est au Mondial de l'Automobile avec le public qui est là, juste devant nous. C'est sympa de faire cette émission en public. Et on fait la route ensemble sur RTL jusqu'à 22h.
20h, 22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut. Vous écoutez RTL.
RTL.
La liaison automobile de la Méditerranée au Grand Lac africain venait d'être ainsi réalisée pour la première fois le 14 décembre 1924 par l'expédition Citroën.
La curiosité est un vilain défaut.
Des bagnoles champagne à la pode, tout est Citroën.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et on est toujours en direct au Mondial de l'Automobile, Porte de Versailles à Paris. On est dans le Hall 2 et d'ailleurs on vous donne aussi rendez-vous jeudi prochain puisqu'on sera là, hein, Sidonie, vous êtes prête?
Bien
de
sûr.
20h à 22h et on vous racontera l'histoire croisée, le portrait croisé en quelque sorte de Renault et de Citroën. Là, on partage l'histoire fabuleuse de cette croisière noire organisée dans les années 20 par Citroën. On a parlé du défi humain, du défi technologique. C'est aussi un défi scientifique.
Oui, scientifique et culturel. Et André Citroën tenait beaucoup à ce que les buts, sa mission aille plus loin que de la roue, que prouver. Donc ils étaient chargés de ramener des collections d'art africain qu'ils ont présentées ensuite dans une superbe exposition au musée du Louvre en 26. Mais il y avait donc ce peintre qui était en observation et qui peignait les chefs, portraiturait tous ceux qui pouvaient se prêter à cela. Mmh. Et puis, il y avait le cinéaste. Et alors, Monsieur Poirier avait décidé qu'il ferait le journal cinématographique de la mission. C'est un des premiers reportages au monde. Et c'est lui qui a vraiment eu cette idée. Et
on peut
qui
le
a
voir
dit...
d'ailleurs dans les archives de l'INA sur Internet, je dis ça pour
absolument,
les auditeurs.
Absolument, oui, oui. Alors, il a réalisé un témoignage, un véritable reportage. Alors, qu'y avait-il encore ? Alors, il y avait le médecin. Alors, le médecin avait une charge très lourde. Il était à la fois médecin et taxidermiste. Médecin de la mission, mais il avait, comme on lui avait passé l'ordre, d'étudier, d'établir une carte de toutes les régions où il y avait des maladies qui sévissaient de façon endémique. Le typhus récurrent, il y avait bien sûr la malaria, la peste, c'était effrayant, le choléra. Donc, il a établi une carte donnant exactement. Et puis, en traversant la Belgique, ils étaient chargés de voir les moyens prophylactiques qu'avaient organisés les Belges. Ils étaient tout à fait remarquable. Ils avaient vraiment quadrillé leur pays. Et ils ont déplacé des villages entiers. Ils organisaient un village à peu près loin d'un lieu d'infection de la malaria. Ils le préparaient, ils plantaient, ils construisaient. Et ensuite, ils déménageaient les personnes les uns après les autres pour habiter ces nouveaux villages. Mmh. C'est ce qu'on appelait les villages déplacés. Mmh. Alors, on a un peu mal compris les choses par la suite. On a dit, oui, les malheureux, on les a obligés à aller vivre ailleurs.
Pourquoi ? Mais pour laisser la course passer, c'est ça ?
Pour sauver leur vie, tout simplement, et leur éviter d'avoir la malaria dans un endroit abominable.
Pour échapper à une épidémie. Oui. Parce que c'est vrai qu'avec, pardon Sidonie, avec le regard d'aujourd'hui, c'est quand même une course, on est en pleine colonisation, donc il y a aussi cette critique qu'on peut exprimer face à une course comme celle-là. Vous disiez qu'ils avaient été très très bien reçus, mais on a aussi pillé ces territoires.
On n'a pas pillé ces territoires pendant cette mission.
On achetait
des objets, mmh. On ramenait des collections et on n'obligeait pas les gens, on leur arrachait pas leurs objets. Mmh. Non, ils avaient un très grand respect. Là, vous me scandalisez.
Ah, mais je pense qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui imaginent que ça s'est passé comme ça.
Eh ben non.
Il n'y a pas eu de polémique autour de cette croisière noire comme il peut y en avoir autour par exemple, du Paris-Dakar depuis quelques...
Eh ben non, ils n'ont écrasé personne.
Des décennies, voilà.
Ils ont respecté les gens dans les villages, ils les ont rencontrés, ils ont relevé, observé leurs us et coutumes avec beaucoup de respect. Et il faut lire les textes de M. Yakovlev, le peintre, de M. Poirier, ce qu'ils pouvaient écrire, de la magnificence de toutes ces civilisations dont ils étaient les témoins et qui étaient en train de s'éteindre. Et on leur avait prié d'essayer de ramener des éléments pour sauver la mémoire de ces civilisations.
Il y a un grand moment dans cette croisière noire que vous racontez, Ariane Audouin-Dubreuil, dans votre ouvrage La croisière noire aux éditions Glénat. C'est le taxidermiste qui donne une leçon de naturalisation.
Ah oui.
Alors racontez-nous.
Oh, c'était un personnage truculent.
Bon, déjà, c'est quoi un taxidermiste concrètement ?
Ah bien, il traite les animaux chassés, ce qu'on appelle empaillés vulgairement, voilà. Mmh. Et donc là, effectivement, alors il donne magistralement un cours avec un grand tablier de cuisinier. Il explique comment on vit l'animal, comment ceci. Alors évidemment.
À qui il fait ce cours ?
Au milieu, de tout le groupe qu'il avait réuni et qui évidemment souriait doucement et puis trouvait ça un petit peu affreux et puis. Enfin, les avis étaient très partagés. Et alors que ce malheureux Yakovlev était en train d'assister au cours, eh bien, il y avait un oiseau, je ne sais plus lequel, sur pied, qui était en train de détruire une de ses œuvres.
Quel tableau ! La mission va aussi découvrir l'anthropophagie. Elle va rencontrer ce qu'ils nomment des mangeurs d'hommes. Ça se passe où ? Ça se passe quand ? Et alors, est-ce qu'ils sont choqués ?
Ça se passe en plein Centrafrique. En plein Centrafrique, mais ils n'ont pas insisté. Mais c'est vrai que l'anthropophagie existait encore. Il y avait toutes des cérémonies. On dégustait un mort. Mais
André Citroën et ses équipes ont assisté.
Non. Mais ils ont rencontré des chefs anthropophages.
Qui leur a raconté?
Oui, on leur a un petit peu expliqué les cérémonies.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, cette croisière noire a donné l'idée à André Citroën d'en faire une autre, la croisière jaune, et puis aussi la croisière blanche. La croisière jaune, c'est en Asie ?
Alors, la croisière jaune s'est passée bien des années plus tard, c'était en 31-32, à travers l'Asie centrale et la Chine et l'Indochine.
Et puis la croisière blanche, c'était aux États-Unis ?
Alors non, ça, la croisière blanche n'a pas été faite avec mon père et Georges Marie Hart. C'était effectivement, Citroën avait vendu ou offert ses voitures à Monsieur Bedeau, qui était un gros industriel et qui a voulu faire par la suite cette mission. Mais ce n'était pas marqué dans la lignée des grandes missions Citroën.
Merci beaucoup Ariane Audouin-Dubreuil. Je rappelle que vous publiez aux éditions Glénat La Croisière Noire. C'est un livre absolument magnifique avec des documents que vous avez puisés dans vos archives personnelles, dans les notes de votre papa. Donc c'est à la fois passionnant et puis émouvant.
Merci beaucoup Ariane Audouin-Dubreuil.
Vous écoutez RTL.